Chapitre 59. Gabriel se faufile dans les couloirs de tuf, creusés jadis par les habitants troglodytes. Il devait être nain. Il est obligé de pencher la tête, parfois même de progresser accroupi. Certains couloirs se sont effondrés et il doit les déblayer à la main. Parfois la neige s'est engouffrée, bloquant le passage, et il doit rebrousser chemin. Il a pourtant tout mémorisé en observant longuement les panneaux à l'entrée. Le dédale, au final, n'est pas si compliqué. 5 étages, des pièces plus ou moins carrées, plus ou moins vastes, taillées en enfilade. Les plus ouvragés comportent des colonnades, des lucarnes, des niches percées dans la pierre. D'autres, au contraire, ne sont que de simples cellules nues, où des jeunes du coin ont sans doute l'habitude de se retrouver, à en juger par les cadavres de bouteilles de bière, les emballages plastiques et les palettes éventrées servant de table ou de chaises improvisées. Gabriel n'a pas froid. Curieusement, le vent pénètre peu dans les couloirs de ces grottes à flanc de falaise. Est-ce que les troglodytes possédaient des notions d'écologie et savaient déjà comment isoler au mieux leur maison, en fonction de leur orientation et de leur non-exposition au vent dominant ou aux précipitations? Il doit continuer, tout en restant à l'abri. Gabriel a atteint le dernier étage et visité toutes les pièces sauf une, celle qui, d'après les plans, se trouve isolée du village troglodyte. Quelques mètres seulement, mais qui l'obligerait à sortir à découvert. Il tente de se concentrer sur sa progression, de ne pas érafler ses mains, de ne pas s'ouvrir la tête contre un plan de tuf. Personne n'a dû ramper dans ces galeries depuis des semaines. Chaque virage sombre cache un nouveau piège. Les roches volcaniques sont plus coupantes que la lame du couteau glissée dans sa ceinture. Les fragiles stalactites, comme des épées suspendues au-dessus de sa tête, prêtes à tomber au moindre pas de côté. Gabriel essaie de ne pas trop penser, de ne pas trop laisser monter sa colère contre Kooning, ce salaud de psychiatre mielleux et dragueur, contre Aster, cette vieille sorcière fouineuse, contre Maddy évidemment aussi, si seulement elle l'avait aimé davantage. Contre la neige, contre le vent, contre les volcans, contre cette région où il ne neige pas assez ou trop, contre la terre entière. Il doit rester lucide. Il aperçoit enfin, au bout du boyau de roche, de la lumière. La galerie s'arrête là, face à lui. Il avance jusqu'au vide et découvre un panorama stupéfiant, bien plus saisissant que de son poste d'observation précédent. Des volcans blancs à l'infini, et des flocons qui donnent l'impression qu'ils ne cesseront de tomber que lorsque les cratères seront remplis. Il distingue dans le brouillard de neige, plein nord, la silhouette massive du château du Murol et la pointe du clocher de l'église Saint-Féréol. Il prend le temps de s'orienter. S'il se fie à sa mémoire et au plan qu'il a consulté, à une 20aine de mètres sur sa droite, la paroi de tuf rouge devrait logiquement s'ouvrir. Sur le mouroir, la pièce qui servait à entreposer les cadavres. Les troglodytes l'ont creusé en dehors du village. En plus de leur fibre écologique, ils possédaient quelques notions d'hygiène. Gabriel a décidé de rester là, à la lisière du tunnel et de la neige. De son poste d'observation, il peut surveiller le mouroir. Impossible de rater ce trou taillé dans la falaise abrupte. Il distingue parfaitement les murs recouverts de chaux et les barreaux qui ferment l'entrée de la cavité. Il doit résister à l'envie d'en voir davantage, d'avancer dehors. Mais la curiosité est si forte. Le mouroir est tout prêt. Il n'a qu'à grimper quelques marches grossièrement taillées au bord de la falaise, jusqu'à la plateforme de pierre devant la grille de fer. Il s'apprête à céder. Il a déjà posé un pied à l'extérieur du tunnel, quand le craquement d'une branche, tout proche, le retient. Gabriel saisit instinctivement le manche de son couteau. Il n'a pas peur. Il s'est préparé. Il sait que quelqu'un va revenir. Il doit simplement se tenir prêt, tout prêt, à jaillir. Quand il faudra. Il écoute en arrêt, tel un chien de chasse reniflant sa proie. Il n'y a plus aucun bruit, mais Gabriel sent qu'il est là, quelque part dans les galeries, caché lui aussi. Il se décale un peu, se collant davantage au mur de pierre volcanique rouge. De sa position, impossible d'être repéré en bas ou de l'extérieur, mais il peut contrôler l'ensemble de la falaise trouée et surtout, sur sa droite, juste au-dessus de lui, la grille du mouroir. Gabriel lève lentement les yeux. Il a cru voir une forme bouger derrière la porte de fer. Il se concentre davantage encore. Grâce au surplomb rocheux qui protège en partie la falaise des chutes de neige, Gabriel bénéficie d'une vue parfaitement dégagée sur la grotte au mur blanc. Il aperçoit enfin le prisonnier du mouroir. Sa silhouette courbée s'avance jusqu'à la grille cadenassée. Gabriel l'observe, scrute chaque détail de son visage, chaque expression, chaque geste. Il paraît terrifié. Il serre ses poings sur les barreaux de fer comme s'il était capable de les arracher. Ses cheveux sont trempés. Ses joues sont noires d'avoir été trop frottées. Ses yeux rouges d'avoir trop pleuré. Il semble avoir du mal à se tenir debout, glissant, s'accrochant. Mais Tom est vivant.